Bonjour. Pour clore notre cycle de conférences autour du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, Survie a souhaité une soirée autour de la justice, de l'impunité et du refus de l'impunité. Grâce à la création d'une juridiction internationale, la Cour pénale internationale pour le Rwanda a été créée. Elle juge les planificateurs du génocide, les penseurs et ceux qui sont considérés comme les principaux responsables, en résumant très fort. Au Rwanda, au lendemain du génocide, les institutions n'existaient plus, notamment l'institution judiciaire. Les juges, les magistrats, les avocats, les greffiers qui n'avaient pas été exterminés étaient en fuite à l'étranger et la masse des criminels était considérable. Il a fallu former des professionnels avec les organisations internationales de juristes parfois avant d'ouvrir les procès en droit rwandais. Monsieur Didier Patry, qui a exercé dans les deux juridictions, interviendra aujourd'hui surtout sur le TPIR, mais répondra à toutes vos questions pour ce qui concerne la justice en droit rwandais. Il a fallu créer une loi portant sur l'organisation et les poursuites des crimes du génocide ou crimes contre l'humanité. Cette loi n'existait pas au Rwanda, qui a catégorisé les auteurs de délits en première catégorie les planificateurs, les organisateurs sur le terrain au niveau des provinces, de l'armée, de l'Église, ceux qui ont été appelés les grands tueurs avec beaucoup de guillemets, les violeurs, les auteurs de tortures sexuelles. Ceux-là sont jugés dans les tribunaux classiques rwandais. La deuxième catégorie, c'est celle des exécutants qui n'ont pas pris part à la planification et qui sont appelés les petits tueurs, qui sont jugés devant les gachachas. Cette partie a été longuement développée la semaine dernière, vendredi, avec Assunta et Alain Gauthier. Sauf question de votre part, normal, nous ne reviendrons pas sur cette partie-là. Les planificateurs et organisateurs du génocide ont fui le Rwanda, parfois pendant l'exécution du génocide, parfois quand le FPR y a mis fin. Grâce à la loi de compétence universelle, des procès ont eu lieu en Belgique, en Suisse. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, nous expliquera la démarche de son association pour ceux qui sont aujourd'hui en France. Et j'espère que Maître Patry pourra ajouter quelques mots sur son action aux côtés du CPCR. Ces génocidaires, ou présumés tels, sont rwandais, mais très vite, dès 1995, des témoignages sont parvenus à l'association Survie, des questions sur les responsabilités de l'État français ont été soulevées. La commission d'enquête citoyenne, co-organisée par Survie, documente ces responsabilités. La commission a eu lieu, elle continue à travailler. Sharon Courtou, qui est porte-parole de la commission d'enquête citoyenne et déléguée de la présidente de Survie, nous en parlera. Et Géraud de Lapradelle, qui a présidé la commission d'enquête citoyenne et qui est juriste pour la CEC, nous expliquera ce volet important pour les citoyens français. Enfin, ces derniers mois, des plaintes ont été portées devant le tribunal aux armées par des Rwandais. La FIDH et la LDH se sont portées partie civile. C'est d'ailleurs la raison de l'invitation particulière qui a été faite à la LDH des arrondissements de cet arrondissement et des arrondissements voisins. J'espérais avoir un représentant de la FIDH. Malgré les relances, je n'ai pas une nouvelle. Donc, Sharon dira quelques mots de ces plaintes et de l'état d'avancement d'informations qu'on a pu avoir pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, je vous donne la parole, Maître Patry, pour le TPIR.
Merci, Laurence. En premier lieu, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité au nom de Survie à partager avec vous tous quelques réflexions tirées de la pratique devant le tribunal pénal international pour le Rwanda étant précisé que, dans l'hypothèse où vous souhaiteriez me poser un certain nombre de questions afférentes à la pratique devant les juridictions rwandaises, je veux dire celles du contentieux du génocide, c'est-à-dire les chambres spécialisées, j'y répondrai très volontiers. 1994, 100 jours, 1 million de morts, 135 000 détenus dans les prisons et les cachots du Rwanda. Génocide, si vous me permettez l'expression, de proximité. Au terme de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies, a été créé le 8 novembre 1994 le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Au terme de cette résolution, et je devrais ajouter de la mauvaise conscience de la communauté internationale. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda a été installé quelque peu après celui pour l'ex-Yougoslavie, à la suite des crimes commis au cœur de l'Europe, dans les Balkans. Le tribunal est composé comme toute juridiction, c'est-à-dire de juges, étant précisé que ceux-ci sont élus par l'Assemblée générale des Nations Unies, et donc de nationalités différentes, non rwandaises, étant précisé que ces magistrats sont appelés ou ont été appelés aux plus hautes fonctions dans leurs États respectifs. Le TPIR comprend 3 chambres, la vérité veut dire aujourd'hui 4, composé de 3 magistrats, ce qui veut dire 9 juges internationaux, et ce que l'on appelle dans le jargon, et pardonnez-moi, j'essaierai d'en faire très peu usage, des juges ad litem, c'est-à-dire appelés pour un procès en particulier. Comme toute juridiction, le Tribunal pénal international pour le Rwanda connaît une faculté d'appel et existe une chambre d'appel qui est commune aux 2 tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda et qui siège à La Haye. À l'évidence, il connaît une poursuite. Pardonnez-moi, ce n'est pas suffisamment précis. Il connaît un bureau du procureur qui est en charge de l'enquête comme des poursuites. Je me permets de vous rappeler que nous sommes en droit anglo-saxon, c'est-à-dire en procédure accusatoire et non en procédure inquisitoire de droit romano-germanique. Par conséquent, il incombe au bureau du procureur de rechercher par le biais des enquêteurs la preuve ou les preuves de la culpabilité et d'exercer les poursuites devant la chambre, comme il incombe aux équipes de défense dans la mesure où devant les juridictions pénales internationales, nous ne parlons pas d'avocats. Nous parlons d'équipes de défense, de rapporter la preuve contraire, notamment par le biais d'enquêteurs. Le TPIR est composé également d'un greffe, à l'image des Nations Unies, c'est-à-dire pharaonique. Le TPIR comprend 800 personnes pour le greffe. greffier, dont la direction, pardon, est assurée par un greffier. Entendez le mot greffier, il ne s'agit pas tout à fait de celui du tribunal de police du 7e arrondissement de Paris. Le greffier du tribunal pénal international pour le Rwanda a rang de secrétaire général adjoint des Nations Unies. Greffe pléthorique dans la mesure où, d'une part, les deux langues de travail sont le français et l'anglais, ce qui suppose une double traduction ou un double interprétariat. Traduction, à savoir que tout document doit être traduit dans les deux langues. Et à la barre, toute intervention est l'objet d'une interprétation simultanée. Ce qui veut dire pratiquement que juge, bureau du procureur, avocat, nous travaillons avec des oreillettes. Et un écran de télévision, un écran plat d'ailleurs, que vous avez pu voir sur les photos des deux juridictions pénales internationales. Cela veut dire que les témoins, en règle générale, je ne parle pas des experts, mais les témoins, en règle générale, sont rwandais et s'expriment en Kinyarwanda. Ce qui veut dire qu'il y a une troisième traduction ou une troisième interprétation simultanée, Kinyarwanda français, Kinyarwanda anglais. Par ailleurs, les débats sont enregistrés par le biais de sténotypie, d'une part, et d'autre part, par le biais d'un enregistrement audio et d'un enregistrement audiovisuel. Alors, pourquoi ce qui peut paraître extraordinairement lourd? L'enregistrement par le biais de sténotypie a été voulu pour qu'il n'y ait pas de difficulté d'interprétation lorsque l'un ou l'autre d'entre nous, je veux dire le président, qui, comme en matière de droit anglo-saxon, n'intervient pas. Le président ne dirige pas les débats, comme un président de tribunal correctionnel ou de cour d'assises en France, dans une procédure romano-germanique. Le président est un arbitre. Les débats sont conduits par le bureau du procureur lorsqu'il interroge un témoin de l'accusation et par le conseil de la défense lorsqu'il contre-interroge le témoin du procureur, naturellement, inversement, lorsqu'il s'agit des témoins de la défense. Par conséquent, c'est le banc du procureur comme le banc de la défense qui conduisent les débats. En revanche, vous l'avez vu dans de très mauvaises séries B à la télévision, objection, dit le bureau du procureur, ou plus rarement, objection, dit le banc de la défense, et le président tranche. Il rejette ou accepte l'objection soulevée par l'un des deux bancs. En revanche, il faut, puisque nous travaillons dans les deux langues, il y a une équivoque sur un mot, et les termes juridiques n'ont pas toujours la même traduction en français et en anglais, il faut permettre au président de se reporter à la sténotypie. Enregistrement audio pour permettre, si besoin est, dans l'hypothèse où la sténotypiste, car ce sont majoritairement les femmes, aurait commis une erreur de sténotypie, qu'il y ait l'enregistrement audio pour pouvoir être relu. Et enfin, naturellement, un enregistrement audiovisuel, car le Conseil de sécurité des Nations Unies, en instituant les deux tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, a voulu également faire œuvre d'histoire, tenter d'établir la vérité historique, notamment à travers les témoignages, notamment à travers les questions posées aux experts, qu'ils soient français, je pense en particulier à Guy Chawa, je pense en particulier à Jean-Pierre Chrétien, qu'ils soient canadiens, sur le plan militaire, le général Roméo Dallaire, ou bien Alison Desforges, ou bien l'autre. Enfin, les équipes de défense sont constituées de 5 personnes. Un avocat principal, un avocat adjoint, que l'on appelle conseil principal, conseil adjoint, d'un assistant qui est en général un agrégatif ou un professeur agrégé de droit, et deux enquêteurs. Étant précisé que il peut y avoir deux assistants et un enquêteur, c'est un choix d'équipe de défense effectué à la fois par le lead counsel, l'avocat principal, et par l'intéressé, c'est-à-dire l'accusé. Étant précisé que à ce jour, aucun des co-accusés, je devrais dire ce qui serait plus correct, des accusés n'a fait le choix d'un avocat. Je m'explique. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, comme pour l'ex-Yougoslavie, a à sa disposition une liste de conseils, de confrères, du monde entier. Et lorsqu'un accusé avance son état d'impécuniosité, et en général, lorsque l'on a été Premier ministre, je pense à Kabanda, ou lorsque l'on est ou a été chef d'état-major des forces armées rwandaises, et que l'on est en détention, on avance l'impécuniosité. Et par conséquent, le greffe, plus exactement la section d'appui à la défense, présente, c'est très anglo-saxon la langue au TPIR, d'autant plus que, comme vous le savez, le TPIR est situé à Arusha, en Tanzanie, pays anglophone, présente une shortlist comportant 3 noms. Et l'accusé fait le choix d'un des 3 noms comme lead counsel, avocat, conseil principal, et c'est d'un commun accord entre l'accusé et le conseil principal qu'est choisi, non seulement que sont choisis, pardonnez-moi, non seulement le conseil adjoint, mais également l'assistant, dont le travail est extrêmement important, parce que c'est lui qui a en charge la rédaction, d'abord les recherches, ensuite la rédaction des requêtes, et comme vous le savez, et je reprendrai là l'expression du juge français qui a été président de la chambre d'appel des deux tribunaux pénaux internationaux et qui aujourd'hui est juge à la Cour pénale internationale, Claude Jourdan, le droit pénal international s'est fait en marchant. Ce qui veut dire que lorsque les deux résolutions du Conseil de sécurité ont été votées, il n'y avait pas de texte. Ce qui, pour nous autres, et je m'adresse là au professeur Jérôme Lapradel, est quelque peu choquant pour nous autres juristes. C'est-à-dire que les textes ont été rédigés après que les crimes ont été commis. Ce que l'on appelle règlement de procédure et de preuve, traduisait code pénal et code de procédure pénale ont été rédigés après que les tribunaux pénaux internationaux ont été installés. Et par conséquent, c'est au quotidien que les textes ont été rédigés, les textes ont été amendés, les textes ont été modifiés, et qu'une jurisprudence s'est dessinée. Pour ne vous donner qu'un exemple, l'affaire Akayesu. Le tribunal pénal international pour le Rwanda et au-delà, la chambre d'appel, a condamné Akayesu pour viol, le viol étant considéré comme un crime de guerre et comme un crime contre l'humanité. Jurisprudence issue du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui aujourd'hui s'applique au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et n'en doutons pas qui s'appliquera devant la Cour pénale internationale demain dans les premières affaires qui seront ouvertes. Par conséquent, le rôle de l'assistant est extrêmement important. C'est à la manière américaine, anglo-saxonne, une bagarre, si vous me permettez l'expression, entre le bureau du procureur et le banc de la défense, à coup de requête auquel la Chambre doit répondre. Et vous me donnez combien de temps ?
Encore 5 minutes.
Encore 5 minutes ? Ok, alors de quoi voulez-vous que je parle ? Oui, tout de même deux choses peut-être qui pour vous peuvent être intéressantes. Alors on ne parlera pas du dossier, c'est dommage, là, je suis un peu frustré, mais tant pis. Il faut que vous sachiez que le tribunal pénal international pour le Rwanda a raison pour laquelle on l'appelle juridiction ad hoc, c'est-à-dire à vocation spécifique, pardon pour ce vocabulaire un peu juridique et un petit peu latin, à vocation spécifique. Ça veut dire quoi ? Cela veut dire que le TPIR a une vocation limitée dans l'espace et dans le temps. Alors, dans l'espace, cela signifie qu'il ne peut connaître que de personnes interpellées en dehors des frontières du Rwanda. Et dans le temps, cela signifie qu'il n'est compétent que pour les faits commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Or, c'est sûrement pas à vous que j'apprendrai que les génocides ont été planifiés depuis 1959. Deuxième point, le statut dispose d'une primauté. Alors, primauté, cela veut dire quoi ? Dispose du principe de primauté. Cela veut dire quoi ? Cela signifie que, à tout stade de la procédure, le TPIR peut demander à une juridiction nationale de se dessaisir à son profit. C'est ce qu'avaient voulu les auteurs du statut, c'est-à-dire à la suite de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est évident que les premiers moments, en particulier pour le bureau du procureur, ont été assez difficiles. Parce que les filets lancés par le bureau du procureur n'ont ramené que de petits poissons. Et puis, le bureau du procureur a appris à pêcher. Et par conséquent, a capturé de plus gros poissons. En revanche, le temps a passé. Et par conséquent, les États contributeurs se sont un peu lassés. Alors, je prendrai un exemple, puis après je retournerai au silence. L'exemple, c'est l'affaire Milosevic. 4 ans de procédure qui s'achève par le décès de Slobodan Milošević et qui démontre naturellement l'impuissance de la justice pénale internationale. Car le décès de Milošević éteint l'action publique. Je me permets de vous préciser que si la justice pénale internationale n'a pas de prix, elle a un coût. Car l'affaire Milošević, échec de la justice pénale internationale, a coûté 2 millions de dollars US par jour. Alors je reviens au tribunal pénal international. Ou aux tribunaux pénaux internationaux, plus exactement. Les États contributeurs, pour certains, dont la France, qui est un contributeur non négligeable, se sont lassés. Pour d'autres, en ont fait une tribune politique. Et je pense en particulier au Japon et au Rwanda, et à l'Allemagne, à l'occasion de la réforme du Conseil, enfin des Nations Unies plus généralement, et plus particulièrement du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous savez, cet élargissement du nombre des membres non permanents. Et le Japon, contributeur important également, l'Allemagne, contributeur important, a dit, nous ne réglons plus nos contributions, en particulier au TPIR, tant que nous n'aurons pas l'assurance que dans le cadre des élections, un siège parmi les membres non permanents sera réservé notamment au Japon et à l'Allemagne. Par conséquent, dysfonctionnement, et je pourrais m'exprimer pendant des heures, mais vous me l'interdisez, sur les nombreux dysfonctionnements, en revanche, les deux juridictions pénales internationales pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ont d'abord le mérite d'exister, ensuite d'avoir et d'être des laboratoires pour la Cour pénale internationale et enfin une décision à la fois sage et probablement très frustrante a été prise par le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, pour mettre un terme aux deux juridictions pénales internationales pour les affaires en première instance en décembre 2008 et devant la Chambre d'appel de La Haye en décembre 2010. C'est la chronique d'une mort annoncée, étant précisé que le principe de complémentarité, évidemment, aujourd'hui n'a plus aucun sens devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, dans la mesure où le tribunal cherche à se défausser des dossiers. Ce qui ne va pas s'en poser de problème parce qu'un certain nombre d'États ne sont pas très pressés d'accueillir devant leur juridiction des génocidaires. Ce qui est une demande du Rwanda. En revanche, le Rwanda, ou tout au moins, devant la justice pénale internationale, la peine de mort a été écartée des textes. Et le Rwanda connaît aujourd'hui encore, dans son code pénal, la peine de mort. Alors, des négociations sont en cours entre le Rwanda, le tribunal pénal international, le premier pas a été fait, c'est-à-dire qu'il a été construit à Kigali, un centre de détention répondant aux standards de la justice pénale internationale, ce qui ne va pas non plus en poser de problème pour le Rwanda, parce qu'actuellement il y a, pardonnez-moi, 100 000 détenus pour 18 000 places de détention. Je vous avais fait une promesse. J'essaie de la tenir un peu tardive.
Merci. Bien. Et toi, là, on parlait d'États qui ne sont pas très pressés de faire agir la justice par rapport aux génocidaires. La parole t'est donnée bien naturellement.
Merci beaucoup. Bon, c'est peut-être pas très facile de parler après Maître Patry et ses qualités oratoires, mais de la part d'un avocat, ce n'est pas anormal. Donc, je vais vous présenter en quelques instants l'association que je préside, le collectif des partis civils pour le Rwanda, qui est une association qui a été créée, je dirais, seulement en novembre 2001, c'est-à-dire plus de 7 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda. Je dois préciser tout de suite que des Français n'ont pas attendu cette date-là pour se lancer dans le combat judiciaire et que le collectif des partis civils, en fait, n'a été créé que bien après les premières actions en justice qui ont été avancées par, en particulier, l'association Survie et puis la communauté rwandaise de France et FIDH. Je dirais que ce qui fait un petit peu la spécificité du collectif des partis civils, c'est qu'il regroupe à la fois des Français et des Rwandais, et que pour la connaissance que nous avons, je dirais, un petit peu du terrain, puisque un certain nombre de membres du collectif connaissent tout particulièrement le Rwanda, bon, ça nous donne d'avoir un regard un petit peu différent, peut-être, des autres associations, mais avec lesquelles, évidemment, nous travaillons. Donc ce collectif, nous l'avons créé au lendemain des procès dont Maître Patry, ou non, c'est plutôt Laurence, auquel Laurence a fait allusion, c'est-à-dire les procès en assises au printemps 2001 à Bruxelles, procès au cours desquels ont été jugés et condamnés 4 génocidaires, un professeur d'université, un industriel ancien ministre et 2 religieuses. Et donc c'est au retour de ce procès auquel mon épouse et moi-même avons assisté, pas tout le procès parce qu'il a duré un certain nombre de semaines, mais suffisamment pour pouvoir bien sentir les choses, c'est au retour donc de ce procès que nous avons décidé de créer le collectif des partis civils pour le Rwanda. Un petit peu à la lumière du collectif des partis civils belges. D'ailleurs, le document que nous utilisons pour faire connaître notre combat, qui s'appelle « Je porte plainte », est fortement inspiré du document que le collectif des partis civils belges avait créé. Donc, depuis bientôt 5 ans, et cette période de 5 ans est très importante pour nous, associations, puisque dans certaines plaintes qu'on a pu déposer, eh bien, il y avait le problème des 5 ans d'existence. Pour pouvoir porter plainte, une association doit avoir 5 ans d'existence. Donc, ça nous a gêné un petit peu dans certains dossiers. Donc, cette association, depuis bientôt 5 ans, tente de réveiller la justice française, je dis bien avec les autres associations, tente de réveiller la justice française dans un certain nombre de dossiers. Actuellement, je dirais qu'il y a 5 ou 6 dossiers déposés chez les juges d'instruction parisiens, puisque tous les dossiers sont regroupés chez les juges d'instruction parisiens. Parmi ces dossiers, certains sont plus avancés que d'autres. Je pense en particulier, enfin il y en a 3 si vous voulez, qui pour l'instant sont bien étoffés, est prêt à, je dirais, à arriver dans l'actualité. C'est le dossier de l'abbé Wenceslas Munyeshaka, prêtre du diocèse d'Évreux. C'est le dossier, je dirais, le plus médiatique, le plus ancien, puisque l'abbé Munyeshaka est arrivé dans le diocèse de Viviers, en Ardèche, et il était prêtre dans une petite paroisse à Bourg-Saint-Andéol, donc est arrivé dès la fin du génocide, et dès son arrivée, eh bien, des plaintes ont été déposées. Un deuxième dossier, c'est celui d'un médecin gynécologue, le docteur Mouniemana, qui est en résidence dans la région de Bordeaux. Dossier également pour lequel les juges d'instruction devraient pouvoir, dans un délai raisonnable, en tout cas nous l'espérons, devraient pouvoir se rendre au Rwanda en commission rogatoire, puisque pour l'instant il ne peut pas y avoir d'action en justice en France tant que les juges ne se seront pas déplacés en commission rogatoire au Rwanda. Bon, nos avocats, et en particulier Maître Patry, sont en lien très étroit avec les juges d'instruction, et en particulier la doyenne des juges d'instruction, Madame Pousse, et il n'a de cesse d'interroger la doyenne des juges d'instruction pour savoir quand son départ est prévu, puisque depuis le 18 janvier 2005, donc depuis plus d'un an, Madame Pousse, que nous avons rencontrée, nous a promis que son départ pour le Rwanda était imminent. Il y a un autre dossier, c'est celui d'un ancien préfet du sud du Rwanda, c'est le dossier Butibaruta. Butibaruta est en résidence dans la région de Troyes, dans l'Aube, en Champagne-Ardennes. Ça, ce sont les trois dossiers, je dirais, les plus solides. Il y a deux autres dossiers de militaires, Serubuga, Laurent Serubuga et Cyprien Kayumba. Bon, il se trouve que pour l'instant, ces dossiers-là ne sont pas suffisamment étayés et pas suffisamment solides pour pouvoir être véritablement défendus, même si des plaintes ont été déposées contre eux et ces plaintes ont été acceptées. Concernant le collectif, nous venons de déposer depuis deux semaines une autre plainte. Pour pouvoir déposer cette plainte, et c'est la décision que nous avions prise avec nos avocats lorsqu'on s'est rencontrés chez Maître Patry, c'était l'an dernier, au mois de juin, mai ou juin, plutôt au mois de juin, nous avons décidé qu'il fallait favoriser des plaintes individuelles, c'est-à-dire de plaignants rwandais, de victimes rwandaises. C'est la raison pour laquelle je suis parti au Rwanda l'an dernier, où j'ai passé un mois, tout le mois de juillet, pour aller recueillir auprès des victimes un certain nombre de plaintes. Je suis retourné au Rwanda pour finaliser ces plaintes au mois de février, et si bien qu'il y a deux semaines, nous avons pu déposer une nouvelle plainte. Je crois que nous avons dans le dossier, pour l'instant, 27 plaignants individuels. Je ne peux pas vous dire actuellement le nom de la personne contre laquelle nous avons porté plainte, puisqu'il faut attendre que les tribunaux auprès desquels les plaintes ont été déposées reçoivent la plainte, l'acceptent, et puis que ce soit que le génocidaire en question soit lui-même averti. Mais je pense que ça devrait être maintenant imminent. Et puis nous avons d'autres plaintes que nous essayons aussi de constituer. Je repars au Rwanda dans deux semaines parce que lors de mon dernier séjour, j'ai initié un nouveau dossier et j'ai demandé en mon absence de demander en particulier au procureur général de Kigali d'essayer d'étayer un petit peu ce dossier. Alors je rappelle que selon la loi de compétence universelle, nous ne pouvons déposer des plaintes que contre des génocidaires qui sont en France au moment du dépôt de la plainte. Alors, vous imaginez un petit peu tout le travail que cela nous demande. Dans un procès habituel, enfin je ne suis pas habitué à ce genre de lieu, mais quand on dépose une plainte pour crime, etc., bon, il y a des enquêteurs qui font leurs enquêtes. Or, ce qui est difficile dans ces dossiers que nous initions, c'est que c'est pratiquement à nous qu'il est demandé d'apporter les preuves. C'est à nous d'aller chercher des témoignages qui viendront étayer ces plaintes. Et ça nous demande à la fois beaucoup de temps, parce que une fois qu'on a recueilli les plaintes, eh bien, la plupart du temps, il faut les traduire pour pouvoir les remettre en Suisse à notre avocat qui les remet au juge. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, et quand on entend évidemment Maître Patry nous dire qu'une journée au TPY, et c'est peut-être un petit peu dans ces eaux-là pour le TPIR, peut-être un peu moins quand même, un peu moins, c'est en Afrique, normal. Quand on entend 2 millions de dollars par jour, nous on accepterait volontiers que le TPY nous cède une journée. Ça nous suffirait largement pour pouvoir mener à bien tout le travail qui est le nôtre. Voilà un petit peu, si vous voulez, quel est aujourd'hui le travail du collectif des partis civils pour le Rwanda. Bon, qui reste une petite association, hein, puisque jusqu'à maintenant, si vous voulez, bon, nous avons pu grosso modo compter autour de 300 membres répartis un petit peu sur toute la France, mais par le jeu d'un peu des défections, etc., on en arrive aujourd'hui à être autour de 150, je dirais un peu fidèles. Bon, régulièrement, on a quand même des gens qui nous rejoignent, qui adhèrent et qui viennent nous soutenir. Alors, je rappelle quand même que par rapport à ce soutien que nous cherchons, parce que nous cherchons du soutien, évidemment, nous sommes une association qui est reconnue d'intérêt général et que les dons faits à l'association sont déductibles des impôts à hauteur de 66%, ce qui peut être intéressant lorsque quelqu'un a la volonté de nous aider. Je ne cache pas que, effectivement, pour nous, le problème financier est un problème un petit peu majeur, même si nous travaillons avec ce que nous avons. Bon, voilà un petit peu quelle est cette longue marche, pour reprendre un terme que nous échangeons tout à l'heure avec Maître Patry et des autres amis, cette longue marche qui est la nôtre, la justice en France, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, est extrêmement lente, elle traîne les pieds, il y a derrière évidemment des raisons politiques, même si quand on interroge les politiques, ils ne cessent de nous dire qu'en France la justice est indépendante et que eux, en tant qu'hommes politiques, ils n'ont pas grand chose à faire. Bon, nous sommes persuadés quand même qu'il y a des blocages, mais nous sommes, et il faut le savoir, nous sommes déterminés à mener ces actions à leur terme. Nous sommes déterminés parce que les victimes, et je peux vous dire que toutes ces veuves que j'ai pu rencontrer au Rwanda récemment comptent sur notre combat pour que justice soit rendue. Elles comptent sur nous, je dis elles, parce que la plupart du temps ce sont des femmes, ce sont des veuves, mais toutes ces victimes comptent sur notre lutte. Et très souvent, elles sont découragées parce qu'elles ont déjà rencontré des gens qui sont venus les voir, qui leur ont demandé de témoigner, et puis ces témoignages n'ont abouti à rien. Moi, je leur ai fait la promesse que nous ne cesserions pas le combat. Je leur ai fait cette promesse, et je peux vous dire que, avec tous ceux qui sont engagés dans cette lutte, nous la tiendrons. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. S'il y a des questions après, évidemment, nous sommes prêts, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup.
À toi pour la suite de notre combat. La suite de notre combat, je vais vous parler de la commission d'enquête citoyenne. Je vais essayer. Je commencerai par remarquer que si à l'orée de la catastrophe rwandaise, nous ne savions pas
qu'un génocide allait s'accomplir, nous étions quelques-uns à savoir depuis un certain temps que les événements d'une gravité extrême pouvaient survenir. Et en avril 1994, la réalité d'un génocide est immédiatement apparue. Et ces quelques-uns ont aussitôt engagé un combat pour que cette réalité soit reconnue et domptée, pour dénoncer les complicités, les lâchetés, les aveuglements, les mensonges qui accompagnaient la réalisation du génocide. Et évidemment pour que les coupables soient identifiés, arrêtés, jugés, punis. N'oublions pas que le génocide des Tutsis Rwandais est l'aboutissement d'une histoire de la longue durée, qui est actuellement largement documentée. De nombreux ouvrages sur cette question existent et sont faciles à se procurer. L'organisation du génocide a été entreprise puis mise à exécution par un noyau d'extrémistes, tout au Rwanda, qui ont pris leur pays en otage à cet effet. Or, la France a soutenu le régime rwandais qui a prémédité et mis à exécution le génocide des Tutsis avant, après la catastrophe et durant. Et ce fait est aujourd'hui également avéré. Le combat pour que cette réalité-là soit documentée continue. C'est ce que j'appelle la nécessité de réparer la face cassée de la République. Cette question est encore à l'ordre du jour. Au lendemain du génocide, nous étions peu nombreux à y travailler, je crois que je viens de le dire, mais les débuts furent difficiles. Vous imaginez certainement que les rescapés, que les familles des rescapés des Tutsis étaient démolies. Nous étions là, hébétés devant ce qui s'était passé. Pourtant, on a essayé de cheminer et de petit à petit commencer à réunir ce que nous pouvions sur cette question et notamment d'ailleurs sur les présumés génocidaires se trouvant dans notre pays. En 1998, des articles de Patrick de Saint-Exupéry, ils étaient une série de 4 articles, je crois, très importants, qui sont parus dans le Figaro, ont fait beaucoup pour provoquer la création d'une mission parlementaire, mission d'information, sur la question de l'implication de la France au Rwanda, alors que depuis déjà pas mal de temps, certaines ONG et des personnalités insistaient pour qu'il en soit ainsi. Une mission d'information a été donc créée, et non pas une commission d'enquête, hélas, une commission d'enquête dont les pouvoirs sont beaucoup plus vastes. Cela a duré plus d'un an, et le rapport de la mission, eh bien, ce rapport représente une étape extrêmement importante dans la recherche de la vérité, très importante. Mais ce n'est qu'une étape, et sa transformation, ce qui était possible, en commission d'enquête qui aurait dû suivre la rédaction et les publications du rapport de la mission, pour pouvoir partir de cette étape et pour aller jusqu'au bout du chemin commencé, eh bien, cela n'a pas suivi. Et, hélas, encore, lors de la publication du rapport, le président de la mission, Paul Quillès, en affirmant que notre pays n'avait aucune responsabilité dans le drame, car le président Paul Quillès a affirmé cela publiquement lors de la publication de 4 volumes d'un rapport que le citoyen moyen ne lit pas, et puis on en est resté là, lorsque Paul Quillès a fait cette affirmation devant la presse, et avant même que les rapporteurs de la mission d'information n'aient pu s'exprimer, Eh bien, il a remis le couvercle sur la casserole. Et il s'est donc avéré indispensable que des citoyens remettent à l'ordre du jour la question de l'implication de la France en soutien au régime qui avait commis le génocide. Et c'est ainsi que fut créée la commission d'enquête citoyenne qui ne s'est en aucune façon prise pour la justice ou je ne sais quelle justice populaire. Elle a simplement travaillé pour établir la vérité et obtenir justice, ce qui est tout autre chose. Elle a pris ses responsabilités. Elle a été décidée au printemps 2003. Elle a abouti au printemps 2004. C'est composé de qui, cette commission d'enquête citoyenne? Les quelques-uns dont j'ai parlé au début, eh bien, ils en font partie. C'est-à-dire que le travail pour la vérité et la justice s'est poursuivi. Ce que font les autorités de notre pays, elles le font en notre nom. Lorsqu'elles entreprennent l'inacceptable, nous, citoyens, nous devons nous lever pour dire non. Messieurs, dames, ça non. Non. C'est non. Et c'est ce que nous avons fait, tout simplement, c'est de dire non. Et puis, il a fallu que nous fassions beaucoup d'efforts pour démontrer à quoi nous disions non, ce non résolu. C'était la poursuite de ce que nous avions commencé à faire lorsque nous avons compris que les autorités françaises s'étaient rangées du côté du régime qui a commis le génocide. Je me répète, mais je crois que je ne me répéterai jamais assez, car cela a entraîné la République dans la honte. Petite remarque encore, l'histoire montre que toute entreprise génocidaire s'accompagne de négationnisme. Et c'est ainsi qu'est née la thèse du double génocide que vous connaissez, celle de la volonté de la victime d'engendrer son propre malheur à des fins inavouables, celle des caractéristiques intrinsèquement malfaisantes de la victime, tendant à transformer la victime en coupable. Nous assistons aujourd'hui, vous le savez, en France, à la manifestation d'un négationnisme, mais c'est très particulier, qui vise à transformer les victimes en coupables afin de récuser toute responsabilité française dans le drame. Et ceci s'inscrit dans un contexte qui s'est créé à la suite des travaux de la commission d'enquête citoyenne, parce que des rescapés du génocide rwandais ont porté plainte visant des militaires français, il s'agit de présumés crimes commis durant l'opération Turquoise, pour crimes contre l'humanité et complicité de génocide. Ces plaintes ont été déposées devant le tribunal aux armées de Paris. Le négationnisme qui s'est réveillé en même temps que cela, eh bien, on pouvait s'y attendre. Est-ce que c'est très grave? Je vous dirai simplement que les négations auxquelles on assiste actuellement n'empêcheront pas l'histoire de s'écrire. Des 6 plaintes portées à ce jour, 2 ont été jugées recevables par le parquet, les 4 autres ont été jugés recevables par le juge d'instruction contre laquelle le parquet a fait appel. Mais n'étant pas juriste, je vais laisser à Gérald Lapradelle le soin de vous exposer la situation des procédures et aussi de vous dire certaines choses sur leur signification. Je voudrais juste terminer en rappelant ce que m'a dit avec tristesse un jour, durant la mission d'information, un député qui en faisait partie. Il m'a dit: Madame Courtou, je croyais que depuis l'affaire Dreyfus, la France avait été vaccinée contre un certain nombre de choses. Or, je m'aperçois qu'y compris dans mon camp, pour beaucoup, la vérité et la justice comptent davantage. Excusez-moi. Ça me trouble toujours, cette phrase. L'honneur de la France et de son armée compte davantage que la vérité et la justice. Ce n'est pas un lapsus, c'est que j'ai tant envie d'y arriver que je m'effondre de temps en temps quand je parle de cette question. Vous m'excuserez. Chercher puis dire la vérité nous permettra de marcher la tête haute. Ce n'est nullement toute l'armée française ni tous les Français qui sont en cause. Ce sont un certain nombre de responsables politiques et un minimum d'indifférence qu'il faut tout de même souligner, qui le sont. Mais les citoyens conscients sont là. Réparer la face cassée de la République, ce sera long, mais on y arrivera. Merci beaucoup.
Je vais m'efforcer d'être bref. Je voudrais dire essentiellement deux choses. D'abord, et m'expliquer sur chacune de ces choses. D'abord, quelle est la position de la commission d'enquête citoyenne vis-à-vis du recours à la justice. Et ensuite, vous donnez les indications qu'a annoncé Sharon à l'instant sur l'état des procédures qui ont été effectivement initiées devant le tribunal aux armées de Paris. Alors, en ce qui concerne la position de la commission d'enquête citoyenne, je crois qu'on peut dire qu'elle est inconfortable. Parce que, comme son nom l'indique, et comme Sharon l'a souligné à l'instant, cette commission n'a pas pour mission de juger, de se constituer en tribunal. Elle a pour mission d'essayer d'établir la vérité, non pas sur tout le génocide rwandais, mais sur l'implication de la République française dans la préparation et dans l'exécution de ce génocide. Et ceci, pas dans une perspective scientifique, même si on s'efforce de prendre toutes les précautions d'usage en la matière, mais dans un but fondamentalement politique. C'est pour ça que la commission s'intitule citoyenne. En effet, ce qui a pu être fait ou pas au Rwanda en 1994 et en réalité depuis au moins 1990, l'a été par les soins d'un gouvernement de pays démocratique. Il a été fait au nom des citoyens et dans une large mesure parce que ces citoyens, pour toutes sortes de raisons dont beaucoup sont traditionnelles, regardaient ailleurs, ne se préoccupaient pas trop de ce qui s'accomplissait en leur nom. Alors un certain nombre de ces citoyens, dont la plupart d'ailleurs ne se seraient préoccupés de rien s'ils n'avaient pas été foyés par l'association Survie qui est allée les pêcher, ben, se sont constitués en commission d'enquête autoproclamée pour essayer non seulement d'informer leurs semblables, mais encore de susciter un débat. Et alors là, nous touchons presque à l'utopie. Au terme de ce débat, essayer de provoquer un changement dans l'attitude des Français à l'égard, pas de tout ce que fait leur gouvernement, mais de ce qu'il fait à l'extérieur et en particulier avec des moyens militaires. C'est-à-dire qu'il s'agit en quelque sorte de remettre en cause le domaine réservé des pouvoirs souverains du président de la République et aussi cette espèce de tradition qui fait que les Français laissent faire dans ce domaine. Donc nous avons un objectif politique et pas fondamentalement un objectif de justice. encore moins de justice au sens technique et judiciaire du terme, la justice que rendent les tribunaux. Mais nous avons été en quelque sorte aspirés par la justice, une espèce de besoin de justice. D'abord, pour des raisons un peu symboliques qui font que lorsqu'on s'intéresse aux crimes de masse, aux massacres massifs, on a tendance immédiatement à raisonner en termes de catégories juridiques, ce qui est une démarche un peu perverse parce qu'elles ne sont pas faites pour faire l'histoire ni pour faire fondamentalement de la politique, mais elles sont faites pour permettre aux tribunaux de fonctionner et de juger des actes qui sont en réalité toujours des actes individuels. Mais en même temps, si nous avons été aspirés par cette dimension judiciaire, c'est aussi parce que nous nous sommes aperçus que si la justice était saisie, le débat qui ne se développe pas jusqu'à présent, que des pavés de ce genre ne suffisent pas à décoincer, pouvait reprendre à propos de ces procédures qui, dans le cas particulier qui intéresse la CEC, visent non pas des étrangers, des Rwandais, mais des Français. Et pas des Français ayant agi comme pirates, comme individus mus par l'appât du gain et des motifs purement privés, mais des agents de l'État français. Des Français, dont beaucoup en uniforme, mais dont les principaux en civil, siégeant dans les palais nationaux, ont agi au nom de la République et au nom de chacun d'entre nous. Donc nous sommes laissés aspirer, pas seulement par la force des choses, mais aussi parce que nous avons pensé, c'est une façon un peu perverse de raisonner, qu'à propos des procédures judiciaires, on pourrait rétablir un petit débat politique. Et vous constaterez qu'au fond, nous n'avons pas complètement échoué dans ce domaine, puisque quand on vous raconte ceci ou cela à propos de l'implication française au Rwanda, la presse notamment vous regarde gentiment, mais ça ne va pas plus loin. En revanche, quand vous faites savoir que des procédures contre X mais visant des militaires français sont pendantes devant un juge d'instruction auprès du tribunal aux armées de Paris, alors là, vous avez une couverture médiatique. Et depuis que nous avons constaté que, un peu grâce à nous, mais pas seulement, des procédures étaient intentées, eh bien, il y avait une couverture. Alors, pour le meilleur et pour le pire, nous avons vu paraître certains livres qui étaient un peu consternants. Et puis, nous avons vu aussi des articles dans la presse, des émissions de radio, de télévision, qui permettent le débat. Donc, au fond, nous sommes inconfortables, mais pas insatisfaits de cet inconfort qui n'est pas tout à fait stérile. Voilà pour le premier point. Alors maintenant, concrètement, où en sommes-nous de ces procédures? Eh bien, Sharon vous a dit tout à l'heure que six plaintes avec constitution de partie civile avaient été déposées auprès du tribunal aux armées de Paris. Pourquoi le tribunal aux armées de Paris et pas la justice ordinaire? Mais parce que ces plaintes visent des militaires et c'est comme ça en droit français. Lorsqu'un militaire est en cause, on saisit le tribunal aux armées de Paris, étant entendu que par définition, la France est en paix, sinon nous aurions une autre d'autres formations. Alors en réalité, il y a trois autres plaintes qu'il ne faut pas oublier et qui se sont provisoirement, je l'espère, fourvoyées dans un premier temps devant la justice civile. Les avocats, n'ayant qu'une confiance limitée dans la justice militaire, avaient pensé qu'ils pourraient tenter le coup devant au moins au stade de l'instruction, devant la justice ordinaire, et ils ont déposé 3 plaintes concernant des viols dont étaient les victimes des femmes qui étaient réfugiées dans le camp de Nyarushishi, où ils étaient normalement protégés par l'armée française, des viols par militaires français. Et alors la juge d'instruction, immédiatement, c'était correct, il n'y a rien à dire, botté en touche en direction du tribunal aux armées pour différentes raisons. Les avocats ont fait appel et ces 3 plaintes sont maintenant en instance. Ça stagne devant la cour d'appel de Paris. Il faudra les rapatrier devant le tribunal aux armées. Devant le tribunal aux armées, on a porté les 6 autres constitutions de parti civil. Et là, on s'est aperçu que la justice n'était pas tout à fait coincée. Il faut comprendre que techniquement, dans un tribunal français, vous avez 2 sortes de magistrats, et c'est comme ça devant le tribunal aux armées comme devant les autres tribunaux, je parle sous le contrôle autorisé de Maître Patrie, vous avez des juges qui sont des juges, ceux qui rendent les décisions et qui sont constitutionnellement indépendants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur donner d'instruction, et d'ailleurs en principe on ne leur en donne pas. Et puis il y a une autre catégorie de magistrats, ceux qui sont chargés notamment d'intenter les poursuites, qui eux sont statutairement soumis à une hiérarchie qui remonte au ministère, double ministère dans le cas du tribunal aux armées, le ministère de la Défense et le ministère de la Justice. Ceux-là ne sont pas indépendants. Leur mission serait de faciliter le cheminement des constitutions de parti civil, mais étant donné que ce cheminement débouche sur la mise en examen de fonctionnaires civils ou militaires français, cette partie de la justice qui est aux ordres, tout à fait régulièrement, on ne peut pas lui reprocher, au lieu de pousser à la roue, freine des 4 fers. Alors nous avons rencontré ça. Enfin, nous avons. Les plaignants ont rencontré cela, et comme nous les accompagnons, nous avons rencontré la même chose. En revanche, devant le juge d'instruction, qui lui est un juge du siège, alors, divine surprise, on s'est aperçu que c'était un magistrat qui entendait faire son métier et qui le faisait. Alors le parquet a mis différents obstacles devant la procédure. Le juge d'instruction a surmonté ces obstacles grâce aux avocats qui sont indispensables devant toute justice. Et à l'heure actuelle, après que le juge se soit déplacé à Kigali pour entendre et voir, les yeux dans les yeux, les personnes qui se constituaient partie civile, 2 des constitutions de partie civile sont admises. C'est-à-dire que l'instruction peut commencer, au moins à propos de ces 2 cas particuliers. Quant aux 4 autres, le parquet a élevé une objection. Il n'est pas juge de la recevabilité des constitutions de parti civil. Il émet simplement un avis et il peut contredire le juge d'instruction, mais devant la juridiction d'appel, il n'a pas le dernier mot. Et l'argument que brandit le parquet, pour autant que je sache, parce que je n'ai pas, moi, accès aux procédures, je ne suis pas parti, j'entends simplement les bruits de couloir. L'argument du parquet, c'est que les partis civils n'ont pas suffisamment caractérisé le préjudice dont ils se plaignent. Il faut savoir en effet que, au moins théoriquement, les victimes ont accès à la justice pénale, non pas pour demander une peine, mais pour obtenir réparation d'un préjudice. Si quelqu'un n'a éprouvé aucun préjudice, il ne peut pas se constituer parti civil. Alors cette situation est un peu confuse. En réalité, les victimes demandent plus qu'une satisfaction sous forme de réparation, qui est un peu misérable, surtout dans ces circonstances. elle demande un châtiment, mais les choses sont ainsi faites officiellement que normalement l'action publique n'appartient qu'au parquet, qui dans le cas particulier ne veut surtout pas qu'elle soit intentée. Mais en se constituant partie civile, on déclenche l'ouverture de l'action publique. La chambre criminelle a même dit que c'était la même chose que s'il y avait eu un réquisitoire du formel du parquet. En tout cas, le juge d'instruction a, contre l'avis du parquet, déclaré les quatre plaintes recevables. Et par conséquent, l'instruction pourrait commencer pour les six dossiers qui sont actuellement déposés devant le tribunal. Mais le parquet a fait appel. Alors c'est la chambre de l'instruction, juridiction civile, celle-là, qui devra trancher. Et a priori, elle devrait confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, parce que le raisonnement du parquet, pour toutes sortes de raisons dont je vous ferai grâce, est complètement idiot. On ne sait pas si c'est un raisonnement pervers, parce qu'inepte, ou simplement... Enfin, bref, c'est une absurdité. Et il faut savoir que le juge d'instruction a changé depuis cette ordonnance. Alors, il ne faut pas y voir la main du diable. Du moins, peut-être un bout de doigt, mais pas toute la main. Parce qu'en réalité, ce juge avait, il y a très longtemps, demandé à être déplacé. Et il était entendu, avant qu'on aille le déranger avec nos constituants de partie civile, qu'elle changerait de poste. C'est une dame. Ça a peut-être été avancé de 15 jours, mais en tout cas, elle est partie. Et elle est actuellement remplacée par un nouveau juge, une autre dame. Le tribunal militaire fait grand usage des dames. Et il faut qu'elle prenne connaissance du dossier. Par conséquent, les choses vont être considérablement retardées. C'est une longue marche, comme on l'a dit déjà plusieurs fois. Cette longue marche est assez pénible. Je ris, mais je ne devrais pas. Et il n'empêche que jusqu'à présent, les choses ne font pas que piétiner. Elles ont un peu avancé. Alors, encore un mot, si je peux. Juste un petit mot pour dire que ce n'est qu'un moyen pour nous, ces procédures. Ce n'est pas une fin. C'est un moyen dangereux. C'est un moyen qui, étant donné nos buts, est en grande partie pervers. En réalité, on ne fera pas l'histoire au sens vrai, avec ses dimensions politiques, de l'application française au Rwanda devant le tribunal aux armées. On a à prendre conscience d'un crime d'État, de la complicité de la République dans un crime d'État. Or, le tribunal n'est saisi par définition que de cas très particuliers, de cas individuels. Il y a donc un aspect tout à fait réducteur dans la manière judiciaire d'aborder ces questions. Il faudra beaucoup travailler devant le tribunal pour que l'on ait l'ébauche du crime d'État. D'autre part, les règles de preuve, et Dieu merci, sont extrêmement contraignantes. Et par conséquent, quantité d'aspects de la réalité vraie passeront à la trappe. Si bien que les décisions seront peut-être extrêmement décevantes pour les victimes, très douloureuses, si ce sont des échecs, mais pour les gens qui s'intéressent à l'implication française, également décevante. Alors il y a tout de même quelque chose à laquelle nous tenons et que nous essaierons d'obtenir par tous les moyens légaux à notre portée, c'est l'implication des décideurs. Parce que au départ, et c'est un des aspects pervers de la justice à laquelle nous avons recours, au départ, on aura, au bout de la ligne, au bout du fusil, si nous avons quelqu'un, que des exécutants, des militaires de base. Il est évident que ça n'a pas grand intérêt d'obtenir la peau d'un sergent, voire même d'un capitaine ou d'un lieutenant-colonel dans une histoire de ce genre. Ce qui compte, c'est la responsabilité des gens qui les ont envoyés en les manipulant. Personne n'est plus manipulable qu'un militaire. La hiérarchie, les ordres, les machins, les gens sont évidemment à la merci des instructions qu'on leur donne. Ce sont les gens qui utilisaient cet instrument qu'est le militaire qui doivent être impliqués directement. On espère par conséquent que petit à petit la procédure permettra de monter les marches d'un escalier pénible. Et l'intérêt d'obtenir la condamnation d'un sergent est à peu près nul, politiquement et moralement. L'intérêt d'obtenir la condamnation d'un porteur d'étoiles ou d'un ministre, alors ça ne serait plus le tribunal aux armées, mais est infiniment plus important. Parce que c'est là que jouerait à plein l'exemplarité. Ces gens-là sont parfumés, intégrés, ils ont des tas de choses à perdre et de grandes responsabilités. Leurs semblables peuvent comprendre qu'à l'avenir, il vaut mieux éviter de se mettre dans le cas de d'avoir à répondre devant un tribunal de choses de ce genre, jusqu'à l'institution des tribunaux internationaux et jusqu'à l'institution à la remorque de ces tribunaux, de règles de compétence universelle permettant de saisir les juridictions nationales, les hauts responsables ne répondaient pratiquement jamais en justice des ordres qu'ils avaient donnés. Quelquefois, on coinçait un sous-fifre. Alors, il y a eu Nuremberg, oui, et Tokyo, mais enfin, il y a longtemps que ces choses-là sont passées dans l'histoire. Alors, nous essaierons d'obtenir ça et d'en tirer le profit politique fondamentalement qui en découle. Merci beaucoup.
En fait, nos quatre intervenants ont commencer à parler de la justice dans les différents plans, mais je pense que d'autres questions continuent à se poser dans la salle. Vous avez la parole. En général, il faut venir jusqu'au micro. Il n'y a pas assez de fil pour aller mettre plus loin.
Quelles sont les possibilités judiciaires? J'ai envie
de venir jusqu'ici. C'est pas ça, mais c'est... Oh, il y a du fil.
Oui, en fait, juste concrètement, quelles sont les possibilités judiciaires justement de poursuivre des responsables français? Et pour l'instant, je crois qu'il n'y a aucune procédure qui a été engagée. Mais est-ce qu'il y a un espoir que cela puisse se faire dans les années qui viennent? Et comment, vous mettez... Il y a des procédures.
Merci. Il y a 9 dossiers, qui sont dont 6 sont à l'instruction. 3 en cours, un peu perdu dans les tuyaux, mais on les en sortira. Donc l'instruction a commencé effectivement pour 2 d'entre eux et elle va commencer pour 4 autres.
D'accord, mais les 6 dossiers, je pensais qu'en fait ils visaient justement ce que vous disiez, les petits sergents, etc. Mais justement pour le au niveau politique, ça, j'ai bien compris qu'au niveau des militaires, mais au niveau politique, est-ce qu'il y a une possibilité d'aider la
procédure? Il faut être patient, camarade. La justice boitille.
Est-ce que c'est que les associations n'ont pas un rôle à jouer l'initiation de ces procédures,
en fait? Les associations ont un rôle à jouer en se constituant partie civile à côté des victimes directes. Alors elles jouent un rôle de parquet de substitution parce que leur objet est évidemment de faire progresser la lutte contre l'impunité. Alors ces associations, il y a notamment la LDH et la FIDH.
Mais est-ce qu'elles peuvent déférer ou poursuivre directement devant un tribunal politique, ces hommes, ces responsables ou pas?
Alors, le tribunal politique, ça serait la Cour de justice de la République. Alors, ça, c'est une paire de manches un peu compliquée. Il n'y a pas de question de partie civile.
D'accord, donc c'est pas possible. Oui.
Mais le tribunal aux armées peut mettre en évidence ces responsabilités-là. Mm-hmm. Mais et le moindre poireau peut comparaître
pointer
devant
du doigt en disant, oui.
Non, mais on peut avoir des officiers généraux. On peut avoir des fonctionnaires, des diplomates,
d'accord,
des banquiers, des marchands d'armes.
Oui, ça serait déjà pas mal.
Ne rêvons pas trop.
Juste sur la même question, toute la table souhaite répondre. On va revenir.
Je voudrais juste ajouter une petite chose. On est toujours obligé d'accompagner nos indignations de pièces justificatives. Ce qui veut dire que, outre ce qui est en train de se passer devant le tribunal aux armées de Paris, il y a tout un travail d'investigation qui se poursuit, qui doit se poursuivre. C'est immense. Toute personne qui a envie de s'attaquer à quelque aspect de tout ça est libre de le faire. Et imaginez qu'un jour, je ne sais pas moi, quelqu'un, je sais qu'il y en a, un militaire qui en a vraiment gros sur le cœur et avant de crever, il a envie de dire la vérité, eh bien, on a fait un pas immense. Imaginez quelqu'un qui était au ministère des Affaires étrangères à l'époque décide, il y en a marre, maintenant je dis ce que je sais. Imaginez que l'un d'entre nous ou toute autre personne qui se trouve au Japon, aux États-Unis ou en Zimbabwe aille petit à petit discuter avec un certain nombre de personnes et il y en a un jour qui lui sorte un papier qu'on n'avait pas. On a encore beaucoup de boulot, mais on ne peut pas dire, écoutez, Védrine, il était à l'Élysée, alors je vais faire un procès contre Védrine, ou je pourrais vous en nommer une douzaine. Il faut continuer.
C'est en ça qu'on disait tout à l'heure que la commission d'enquête citoyenne continue.
Merci. Je voudrais, monsieur le professeur, tempérer votre pessimisme. Alors, c'est à la fois, naturellement, l'avocat qui s'exprime, c'est également l'officier de réserve ayant servi dans le cadre de la justice militaire. Et par conséquent, ma réponse est double. Je crois aujourd'hui que ce que vous avez évoqué, naturellement, est vrai, s'agissant du Rwanda, plus particulièrement. En revanche, il y a une évolution des mentalités, singulièrement dans cette institution très particulière que sont les armées. La preuve en a été apportée par le ministre lui-même à l'occasion de l'affaire, si j'ose m'exprimer ainsi, de Côte d'Ivoire. Et c'est un général, 4 étoiles, par conséquent de corps d'armée, qui a été démis. J'ajouterai, et cette fois-ci peut-être de manière moins médiatique que l'affaire de Côte d'Ivoire, que le colloque organisé par le centre de recherche de Saint-Cyr-Coëtquidon au mois de septembre dernier avait pour thème éthique et guerre asymétrique. Alors, laissons de côté la guerre asymétrique, retenons l'éthique. Aujourd'hui, en ce qui concerne les grandes démocraties, et je ne parle pas, pardonnez-moi, je me veux dans une enceinte de liberté, et par conséquent dans un espace de liberté, je ne parle pas de nos amis américains, et je ne parle pas de nos amis britanniques. Je parle des grandes démocraties. En matière militaire, aujourd'hui, l'éthique est l'une des questions essentielles posées en ce qui concerne l'enseignement, soit l'école de Saint-Cyr-Coëtquidon pour l'armée de terre, navale pour la marine, salon pour l'armée de l'air, et les académies militaires des pays du Nord, je veux dire la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège. Je crois que dans la vieille Europe, pour reprendre l'expression de Rumsfeld, il y a une prise de conscience. Alors, nos amis américains ne la partagent pas, ça s'appelle Abu Ghraib. Nos amis anglais ne la partagent pas, ça s'appelle armée de mercenaires. C'est ce que l'on appelle la sous-traitance. On sous-traite le gardiennage des maisons, des centres de détention. On sous-traite le renseignement. En revanche, la France n'appartient pas à cette école. Et par conséquent, si vous me le permettez, monsieur le professeur, je modère votre pessimisme pour dire qu'il y a une mentalité qui se dessine de, d'enquête d'abord, de poursuite ensuite des militaires ayant commis des crimes. En revanche, la question que vous posez, me semble-t-il, est d'une toute autre nature. Elle est moins militaire qu'économique et politique. Je ne veux pas aborder ce sujet parce que ce n'est peut-être pas celui de l'ordre du jour. En revanche, on pourra s'en entretenir bien volontiers. C'est, me semble-t-il, la vraie question de la relation très particulière en dehors des accords bilatéraux, notamment africains, de la relation très particulière entre le président François Mitterrand et le président Juvenal Habyarimana. Il y a une question économique fondamentale et on pourra éventuellement en parler si vous le souhaitez.
Une autre question.
Merci. Bonsoir. Je voulais vous poser la question de l'exploration de l'idée de plainte pour négation de génocide, du fait de des thèses effectivement qui sont agitées de, à la fois de double génocide. Alors est-ce que c'est de la négation ou enfin comment est-ce que ça, il y a une qualification juridique pour cette réinterprétation de la vérité, et puis les gens évidemment qui attaquent, enfin comme Pierre Péan et autres, qui attaquent en ce moment l'idée même de génocide. L'autre aussi aspect juridique, je ne sais pas, dans le bouquin de Saint-Exupéry, quand il est... il évoque le contrat de Paul Barry, le contrat insecticide qu'il passe avec les milices interahamwe, alors donc avec l'État rwandais, j'imagine. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose là qui peut être fait ça ne relève pas d'une activité commerciale classique. Donc, dans quelle mesure, ou qui pourrait poursuivre? Est-ce que c'est l'État rwandais actuel? Est-ce que c'est des victimes, des interahamwe repentis? Je ne sais pas. La dernière question, c'est plus pour les... en termes de théorie du droit, et le concept de commission d'enquête citoyenne m'intéresse beaucoup. Il me fait penser évidemment au tribunal des peuples pour les crimes en Irak, pour aussi quelque part aux commissions vérité et réconciliation ici ou là. Je voudrais savoir s'il se dessine, si ces initiatives qui ne sont pas toujours citoyennes, qui peuvent être d'État comme les commissions vérité et réconciliation, mais qui peuvent être citoyennes, commencent à rentrer dans la jurisprudence ou au moins le débat théorique dans les revues juridiques. Est-ce qu'on commence à, dans certains pays à valider des acquis éventuels de telles commissions citoyennes?
Juste deux mots au tout début de vos questions. Outre, dans les livres auxquels vous avez fait allusion, outre les extravagances contenues dans ces livres qui ont évoqué les histoires de cabinets noirs au service de Paul Kagame, pour ne pas le nommer, etc. Il y a des extravagances incroyables, mais outre cela, il y a un fait qu'il faut comprendre. Durant le génocide et avant, il est exact que le Front patriotique rwandais a commis des crimes. Ça aussi, c'est documenté, c'est avéré. Au-delà des immenses difficultés dont le FPR a hérité à la fin du génocide en prenant le pouvoir à Kigali, sa gestion du pouvoir est à certains égards critiquable, et nous l'avons critiqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toute cette affaire, nous faisons la distinction entre ce qu'éventuellement nous pouvons penser du pouvoir aujourd'hui en place à Kigali et le génocide. Et nous privilégions la question du génocide et l'implication de notre pays dans le crime des crimes. Ce sont deux questions différentes et nous privilégions en effet ce qui relève de notre responsabilité de citoyen. Ce sont deux questions totalement différentes et d'ampleur très différente bien sûr.
Sur le premier point, le négationnisme. Bon, indépendamment de l'incrimination qui figure dans le code pénal à l'encontre des gens qui nient les crimes contre l'humanité et les génocides, il n'est pas sérieux de contester qu'il y ait eu un génocide au Rwanda, le génocide dont les Tutsis ont été victimes, tout simplement parce que c'est jugé. Après tout, c'est une incrimination, c'est du droit, et en matière de droit, la vérité est celle qui sort de la bouche de l'autorité qualifiée pour la dire, c'est un tribunal. Bon, quant à dire qu'il y a eu un second génocide dont les Hutus auraient été victimes de la part du FPR, alors là, l'argument d'autorité ne suffit pas, simplement... au minimum pas sérieux étant donné la définition du génocide. Le FPR a certainement commis quantité de crimes et exterminé beaucoup de Hutus, mais il ne les a pas exterminés simplement parce qu'ils étaient Hutus. Donc il n'y a pas, ça ne correspond pas à la définition du génocide. Maintenant, on est libre de ses opinions sous réserve de l'incrimination à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Sur le deuxième point, le gentil commandant Baril et ses agissements est certainement pas très fréquentable, mais jusqu'à nouvel ordre, je ne connais personne qui ait entre les mains de quoi le traduire devant un tribunal. Techniquement, ça ne tient pas. En revanche, il y a des victimes directes d'agissements dont ces victimes prétendent que les auteurs sont des militaires français, et ça, bon, c'est une instruction. Troisième point, la commission d'enquête citoyenne est quelque chose de très différent du tribunal, enfin des tribunaux Russell ou du tribunal permanent des peuples, parce que ces tribunaux sont des tribunaux autoproclamés, mais qui prétendent faire le travail que devraient faire des tribunaux dont on déplore qu'ils n'existent pas et que par conséquent ils ne le fassent pas. Donc ils énoncent des règles qu'ils vont prendre à droite et à gauche dans les instruments internationaux, dans la coutume, dans la jurisprudence, et ils les appliquent à des cas particuliers, ils prononcent, alors pas des peines, mais ils prononcent des jugements. La commission d'enquête citoyenne est une commission d'enquête, ce que les British appellent en grec « fact-finding commission », c'est-à-dire qu'elle cherche à établir des faits dans une perspective qui n'est pas celle d'un tribunal même, d'un tribunal d'opinion, d'un tribunal privé. Donc c'est très particulier. C'est de l'enquête à but politique, essentiellement.
Merci. Et peut-être, monsieur le professeur, un point. Lorsque vous dites « le génocide est établi », oui. Il a été établi d'abord chronologiquement et non sans difficulté par les Nations Unies. Il a été établi par, à l'époque, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. En revanche, lorsque vous dites la justice... pénal international, le tribunal pénal international pour le Rwanda en l'espèce l'a établi, je vous suis volontiers. En revanche, je voudrais être prudent. Parce qu'aujourd'hui, la doctrine du bureau du procureur
Boubacar Diallo, en particulier, procureur de Ventepeillère, gambien, a amené un certain nombre d'avocats généraux principaux à dire au banc du procureur, on ne discute plus le génocide. Il est établi. Et en qualité d'avocat, je ne peux pas accepter d'entendre dire cela. Vous n'ignorez pas que trois accusés devant le tribunal pénal international pour le Rwanda ont été acquittés. Non seulement par le tribunal, mais également par la chambre d'appel. On ne peut pas dire à leur encontre, le génocide est établi. Alors, parce que, et c'est toute la question que vous posez avec beaucoup d'intelligence, naturellement, le génocide, bien sûr, c'est le crime, pour reprendre l'expression, votre expression, le crime des crimes, c'est un crime de masse. Et c'est toute sa difficulté. C'est parce qu'il est crime de masse que la responsabilité est collective et que la culpabilité est individuelle. Or, le crime n'est établi qu'à l'encontre de celui qui l'a perpétré. Ce qui m'amène à une certaine prudence. Je partage naturellement, monsieur le professeur, votre analyse. En revanche, avec une relative prudence en ce qui concerne les intéressés.
Pardon. Oui, je suis tout à fait d'accord, contrairement aux apparences. Parce que je vous ai parlé du génocide établi, c'est le génocide en tant que tel, c'est le crime d'État. Maintenant, c'est toute l'ambiguïté du travail de la justice. Elle juge des individus, des faits individuels, des responsabilités individuelles, et par conséquent, il est extrêmement choquant de voir le parquet déclarer qu'on n'a plus à se préoccuper, à propos de cas particuliers, de la question de savoir si on peut leur reprocher d'avoir participé à un génocide. Ça, c'est le domaine. Donc, il y a, en réalité, la question valait la peine d'être précisée, mais je suis tout à fait d'accord avec vous.
Moi, simplement pour revenir sur la première partie de votre question concernant la plainte pour négationnisme. Je crois qu'en France, bon, moi je ne suis pas juriste du tout, hein, mais je crois qu'en France, c'est uniquement dans le cadre de la Shoah que l'on peut être habilité à déposer plainte pour négationnisme. Dans le cas des autres génocides, le génocide arménien et le génocide des Tutsis, à ma connaissance, il n'est pas possible. D'ailleurs, je crois que c'est à tel point que, lorsque récemment, concernant le livre de Péan, plus de 200 citoyens rwandais, appuyés par, soutenus par des associations comme Ibuka, Rwanda et Ibuka France, sont venus en février pour déposer plainte, les avocats n'ont pas accepté de plaider plainte pour négationnisme. La seule chose qu'ils acceptaient de plaider, c'était plainte pour incitation à la haine raciale. D'ailleurs, les 4 avocats français se sont retirés du dossier ce jour-là, en partie à cause de ce malentendu qu'il y a eu. Les associations et les plaignants voulant plaider, enfin, ayant évoqué la possibilité de plaider pour négationnisme, alors que ce n'était pas possible. Et même dans le cadre de plaintes pour incitation à la haine raciale, les avocats qui ont été contactés, certains avocats qui ont été contactés, ont dit que dans le cas de Péan, il y avait à peine 5% de chances de réussite. Donc, enfin, c'était la précision que je voulais dire par rapport à la plainte pour négationnisme. C'est d'ailleurs ce qui nous a opposé un petit peu. D'ailleurs, tous ceux qui ont été attaqués en France dans le livre de Péan, personne n'a finalement décidé d'aller devant la justice. Peut-être parce que, tout simplement déjà parce que Péan peut-être n'entendait que ça. Et puis, ce n'était pas du tout gagné d'avance. Donc, on a tous préféré s'abstenir. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire au Rwanda lors de mon dernier séjour, puisque j'ai eu à participer à un débat contradictoire avec le président d'Ibuka Rwanda, François Ngarambe, à une radio rwandaise, où nous nous sommes opposés, effectivement, et où j'ai été amené à dire les raisons pour lesquelles personne en France n'était disposé à porter plainte contre Péan.
D'autres questions au micro ?
Bonjour, j'ai posé déjà ma première question à Alain. Au sujet des plaintes qui ont été déposées contre des religions en France, quand l'affaire sera vraiment lancée, est-ce que ces personnes, bon, en juridique j'y connais rien bien sûr, est-ce que ces personnes ont toujours leur passeport, et à savoir est-ce que ces personnes pourront quitter la France, ma foi, s'ils voient que ça commence à sentir le brûlé pur, vu que ces gens sont quand même protégés par la hiérarchie catholique française, et peut-être du Vatican ensuite, je sais pas.
Le problème, c'est que bon, la question ne se pose pas que pour Mounir Chaka, puisque c'est le seul religieux en France pour l'instant qui est poursuivi. La question peut concerner tous les gens qui sont poursuivis. Il y en a déjà qui ont échappé de justesse à la justice le jour même où ils devaient être arrêtés par la police. Il y en a un en particulier. A-t-il été averti par son avocat? C'est ce qu'on suppose, mais bon, en tout cas, il a échappé à la justice. C'était pourtant un gros poisson. Donc, ils ont tous, je dirais, éventuellement, la possibilité de filer à l'anglaise. Mais maintenant, pour aller où? Parce que il faut savoir quand même que si les pays africains, pendant longtemps, ont été des pays de refuge, aujourd'hui, ils le sont de moins en moins. Et donc, je ne vois pas comment... Enfin, il y en a encore. Mais...
La République démocratique du Congo, oui. Par exemple.
Oui, bien sûr, évidemment. Mais bon, partir, oui, ils ont toujours la possibilité de partir. Mais ceci dit, bon, peut-être que tu peux répondre plus précisément là-dessus.
Je vais tenter, en tout cas. Je crois, pour répondre à votre question de manière très pratique, dans la mesure où l'un d'entre nous, avocat des uns et des autres, obtenons du juge d'instruction qu'il mette en examen. Il est évident que le devoir premier qui est le nôtre est de dire « Madame, le juge, en l'espèce c'est une femme, voulez-vous assortir votre décision du retrait du passeport ?» C'est le béaba, de manière à faire en sorte que le passeport soit remis et par conséquent, il ne puisse plus quitter le territoire français, officiellement. Parce qu'ensuite, il est évident que on a vu nombre de passeports retirés, sans pour autant que l'intéressé, ou tout au moins le titulaire du passeport, se maintienne sur le territoire national.
Enfin, une question, Maître Patry, encore une question. Pour les Rwandais, enfin Rwandaises qui déposent là-bas, après leur déposition, est-ce qu'elles sont protégées? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce que pour au point de vue sécurité?
Le là-bas signifiant le TPIR, si j'ai bien compris.
C'est ça, oui.
D'accord. Oui. La réponse, est oui. À savoir qu'il existe deux types de témoins. Les témoins, point, et les témoins protégés. Les témoins protégés le sont par les Nations Unies. Et par conséquent, depuis le départ de l'aéroport de Kigali jusqu'au retour à l'aéroport de Kigali, ce sont les Nations Unies qui les protègent. À la manière Nations Unies. Et je peux vous dire, avoir bénéficié de protection Nations Unies, c'est démentiel. Démentiel. c'est américain. Soyons clairs. Ce qui veut dire que dans l'avion, sur le territoire tanzanien, c'est-à-dire à l'aéroport à Kilimandjaro, sur la route, ce sont des convois de voitures blindées des Nations Unies, vous savez, les 4x4 Pajero blanc UN, bleu, avec devant et derrière un véhicule de l'armée rwandaise, armée, hein, et des fusils chargés. Voilà, c'est complètement dingue. Pardon ?
Pour aller sur les collines ?
Non. Pour aller au tribunal. Pour aller au tribunal. Et les témoins protégés sont logés dans des villas appartenantes aux Nations Unies qui sont gardées jour et nuit. Par conséquent, protection. Par ailleurs, lorsqu'un témoin comparaît, je ne sais pas si vous avez vu des photos de salles d'audience du TPIR. Imaginez à peu près cette salle, c'est-à-dire en longueur, à l'endroit où se trouvent les rideaux, le tribunal, à la place des intervenants, le bureau du procureur, et en face, le bureau de la le banc de la défense. Et en face du tribunal se trouve le témoin. Le témoin entre, alors pardonnez-moi, pour être tout à fait précis, la salle d'audience, personne n'y a accès, dans la mesure où il y a une vitre blindée qui sépare la salle d'audience de la salle réservée au public et à la presse. Et lorsque le témoin entre, le greffier tire le rideau bleu, naturellement, Nations Unies, pour permettre un anonymat total. Le témoin tourne le dos à la salle ouverte au public et à la presse et fait face au président. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des écrans de télévision, que ce soit dans la salle d'audience ou à l'extérieur, dans la salle publique presse. Les écrans sont éteints. Et la voix est caviardée. Par conséquent, dans l'audience, à l'audience, pardon, un anonymat quasi total. Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure, les témoins portent un... pardonnez-moi. Les témoins ne sont pas annoncés par leur nom. C'est le témoin A. L.N. Ce qui, et là je m'adresse au professeur Jérôme Lapadel, pose un certain nombre de questions sur le plan du caractère contradictoire des débats. Parce qu'il est normal que le témoin A.L.N., dans l'exemple cité par le bureau du procureur, la défense, sache à qui il a affaire. Et ça va encore plus loin. Les procès-verbaux d'enquête qui nous sont remis, c'est-à-dire ceux qui ont été rédigés par les enquêteurs du bureau du procureur, sont caviardés. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas le nom, pas la date de naissance, pas l'adresse, pas la profession, mais ça va bien plus loin que cela. À savoir que lorsque une phrase peut laisser penser que caviardé. Je n'ai pas pensé vous apporter des témoignages caviardés, c'est absolument illisible. Ça ou rien, c'est la même chose. Ce qui pose une vraie question quant à la contradiction des débats. Alors, elle a été résolue dans des conditions typiquement jurisprudence pénale internationale, à savoir qu'aujourd'hui, pardon, le bureau du procureur a l'obligation de communiquer les pièces non caviardées dans le délai de 8 jours qui précède l'audition du témoin. Ce qui est mieux que rien, mais ce qui n'est pas très satisfaisant, parce que préparer un contre-interrogatoire, puisque nous sommes en droit anglo-saxon, Un contre-interrogatoire en 8 jours, c'est un peu court. En revanche, c'est un progrès, et j'imagine que devant la Cour pénale internationale, l'on ira au-delà. Cela pour vous dire, pardon un peu longuement, oui, il y a une vraie protection. En revanche, pardon, une vraie protection sur le territoire tanzanien et dans le cadre Nations Unies. En revanche, au Rwanda, la question reste entière, parce que vous le savez, un certain nombre de témoins ont été assassinés à leur retour au Rwanda. Raison pour laquelle aujourd'hui le gouvernement de Paul Kagame est assez vigilant sur les visas. Pour d'autres raisons également, parce que les relations entre le tribunal pénal international et le Rwanda, c'est un peu je t'aime moi non plus. Et par conséquent, les relations extrêmement difficiles.
Questions dans la salle?
Oui, le président Kagame avait annoncé qu'il y aurait peut-être une commission d'enquête en fait rwandaise sur la responsabilité de la France. Je voulais savoir si ça avait été initié ou abandonné complètement, parce que le Rwanda reçoit aussi de l'aide financière de la France maintenant. Donc, est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe à ce niveau-là?
Je crois qu'il n'y a pas de nouvelles particulières à ce propos. La commission n'est pas du tout abandonnée. Il y a toujours dans la volonté du gouvernement rwandais, effectivement, de créer cette commission. Maintenant, dans quel délai, ça, je n'en sais rien. Mais l'idée n'est certainement pas abandonnée.
Donc elle n'est pas encore en place.
Pas véritablement.
Cela a été dit par le président Paul Kagame à la suite, à mon sens, d'une maladresse de la France. Je crois qu'il faut savoir balayer devant sa porte, à savoir la publication dans Le Monde du rapport du juge Bruguière, à la veille du 10e anniversaire, de la commémoration, pardon, du 10e anniversaire du génocide. Plus maladroit, tu meurs. C'est clair. Et par ailleurs, le secrétaire d'État à l'époque, aux affaires étrangères, c'est plus son nom, aux affaires étrangères, qui participait à la commémoration du 10e anniversaire. Enfin bon, peu importe. Renaud Muselier s'est levé et est parti pour reprendre l'avion. Donc, on était là dans la surenchère. Avec, je le dis parce que je le pense, je crois être un esprit libre, hein, une maladresse de la France. Il fallait surtout pas publier le rapport de Bruguière dans Le Monde à la veille de la commémoration.
Ceci dit, c'était peut-être pas une maladresse, c'était peut-être bien voulu aussi.
Juste un mot sur Bruguière.
Oui, je pense, n'étant pas juriste, je peux quand même me permettre de dire que M. Bruguière, qui est un juge d'instruction, n'écrit pas des rapports, comme le rapport de la commission d'enquête citoyenne, en fait, etc. Il a fait une investigation, il n'a pas encore déposé son instruction au parquet, etc. Mais moi, je n'ai pas encore, comme certains journalistes prétendent avoir eu accès au contenu du rapport du juge Bruguière, et je dirai ce que je pense de ce qu'il y a dans le jour où j'aurai accès à ce document, et je trouve que ça commence à bien faire. C'est le serpent de mer, on annonce que ce serpent de mer va sortir sa tête, mais au fond... La commission d'enquête rwandaise tarde également, et on peut très bien se dire que tout ça, c'est aussi une façon de Paris-Kigali de se regarder en chien de faïence pour dire des choses extrêmement diplomatiquement. On verra.
Vous avez tout à fait raison, madame. C'était il y a d'abord un juge d'instruction qui ne rédige pas le rapport, ça c'est clair, et ensuite... c'est la relation justice, ou tout au moins juge-presse, et en particulier Le Monde. En revanche, ce qui a été un petit peu maladroit, c'est le fait que le juge Bruguière dise, ou tout au moins il soit rapporté, que la boîte noire du Falcon 50 ait été retrouvée. Alors que la commission d'enquête parlementaire française. La mission, excusez-moi. La commission d'enquête du Sénat belge. La commission d'enquête de l'UA. Personne n'a parlé de cette boîte noire du Falcon 50. Elle n'a pas été retrouvée. Bruyère dit Le Monde, je cite, la boîte noire est aux États-Unis. Plus exactement, elle est aux Nations Unies. Et 10 ans après, au fin fond d'un couloir de l'immeuble de verre, dans une armoire que personne n'avait remarquée jusqu'à présent, on trouve la boîte noire du Falcon 50. Reconnaissez que c'est un peu maladroit. Et par ailleurs, c'est pas la bonne. Voilà. On a même...
Attends. Il a même été dit que ce type d'avion n'avait pas normalement de boîte noire. Il est possible qu'elle n'existe pas. Ça n'a pas empêché l'ineffable Baril de montrer une boîte noire.
Je reviendrai, si vous permettez, en insistant. Il faut que nous ayons des pièces justificatives. Que des journalistes ou des juges d'instruction ou des bavards ou des politiques, etc., racontent des carabistouilles, nous sommes tous assez grands, je pense, pour savoir que le monde va ainsi. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été racontées dans des journaux dernièrement, qui étaient intéressantes. Il y en a une ou deux que j'ai pu vérifier, on va en entendre parler, etc. Il faut vérifier. Ça, c'est... Au fond, l'objectif de cet enchaînement de carabistouilles, c'est aussi pour entraîner l'opinion. Au fond, 12 ans après un génocide, il y a des gens qui sont fatigués d'essayer de comprendre. Et on les rassure que c'est vraiment tout ça est tellement embrouillé qu'on s'en sortira jamais, de sorte que le citoyen moyen tourne le dos à sa responsabilité de connaître cette vérité. Alors, prenons avec beaucoup de patience, je répète le mot, toutes ces carabistouilles qui... Et il faut qu'on essaye de trouver la vérité, la réalité. Il ne faut pas se laisser embrouiller, se laisser entraîner dans des bois où il ne se passe en fait rien et on vous dit où il y a des diables et des mauvais esprits.
Bonsoir, effectivement, excusez, je ne suis pas venu très tôt parce que je sors d'une réunion pour venir ici. Donc je vais poser une question et vous m'excuserez si elle a déjà été posée. Qu'est-ce qui empêche de demander une commission d'enquête internationale sur le Rwanda? Pourquoi cette commission n'a pas été demandée jusqu'à présent? Peut-être que cela empêcherait de mettre tel ou tel pays en cause. Si au niveau international, on arrive à savoir, non pas tout, mais les grandes lignes de ce qui s'est passé réellement au Rwanda. Par exemple, comme ce qu'on vient d'évoquer, le problème de l'avion d'Abiarimana abattu. Abattu par qui? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait. Alors, une commission d'enquête internationale permettrait peut-être de laver l'honneur de la France.
Il y a eu une enquête faite par René Denis Segui, expédiée par l'Organisation des Nations Unies, par l'ONU, qui a conclu à ce qu'un génocide avait été commis. Mais à l'issue de l'investigation de M. Denis Segui, qui outre d'être quelqu'un de très compétent et juriste aussi, il devait parfaire ce travail en faisant une investigation sur l'attentat contre l'avion du président Juvénal Habyarimana. Et il a commencé à faire une tournée des uns et des autres. Il a fini par retourner à l'ONU en disant, écoutez mes enfants, moi il me faut des investigateurs, il me faut pas mal de choses pour mener à son terme cette enquête. Et il raconte cela d'ailleurs devant la mission sénatorial belge, où il dit, on m'a répondu, désolé monsieur Denis Segui, mais il n'y a pas de budget pour cela. Je crois, bon, c'est absolument scandaleux, nous avons, on va survivre, mais bien d'autres, depuis un certain temps, surtout insisté sur la nécessité de vider cet empêchement à avancer, hein, et de réclamer l'investigation. Ceci dit, nous avons probablement, enfin moi je m'en veux, nous aurions dû hurler dès le début pour dire cette investigation doit être faite. Mais au lendemain, immédiatement après le génocide, bon, on n'a pas toujours fait exactement et précisément tout ce que nous aurions dû faire parce que nous n'avons pas prévu tout ce qui allait se passer par la suite.
Juste un mot, bien que je ne sois pas particulièrement au courant de ces choses, mais il y a deux manières d'instituer une commission d'enquête internationale digne de ce nom. La première, traditionnelle, c'est un accord entre les États qui sont intéressés. Il faudrait que le Rwanda, la France, la Belgique, peut-être les États-Unis veuillent bien mettre sur pied. Il est évident qu'aucun d'entre eux n'y tient. L'autre manière, c'est celle par exemple qui a été adoptée à propos de l'assassinat de M. Hariri au Liban, c'est une résolution du Conseil de sécurité. On retrouve les mêmes, ou pratiquement, au Conseil de sécurité. Il est évident que s'il n'y a pas de commission d'enquête internationale, c'est parce que les différents gouvernements intéressés ne veulent pas qu'il y ait une commission d'enquête. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait.
Pour tenter de répondre, monsieur, à votre question, dans le cadre, et je reprends là le propos du professeur Jérôme Lapradelle, dans le cadre de la résolution des Nations Unies, l'objet était aussi l'enquête sur l'attentat perpétré contre l'avion présidentiel. Vous savez que plusieurs procureurs se sont succédés. Alors, je ne parle pas du premier parce que c'était les premiers pas, si j'ose dire, du TPIR, mais de Madame Louise Arbour, juriste canadienne, anglophone, qui a pris la décision de demander aux enquêteurs de son bureau d'enquêter sur l'attentat. Mal l'en a pris. Car très rapidement, j'emploie volontairement l'expression, qui, je ne sais pas, vraisemblablement le secrétaire général des Nations Unies, lui a indiqué que l'enquête relative au crash de l'avion présidentiel n'entrait pas dans le mandat du TPIR. Et Madame Arbour n'a pas poursuivi ses investigations. Lui a succédé, vous le savez, Madame Carla Del Ponte, Suissesse, déterminée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je peux vous en parler en connaissance de cause dans la mesure où j'ai eu l'occasion de la rencontrer personnellement à plusieurs reprises, qui a considéré que le mandat donné par le Conseil de sécurité au TPIR comprenait les investigations. Et elle a donné pour instruction un Suisse, qui était son bras droit, responsable des enquêtes, un confrère genevois d'ailleurs, de procéder à des investigations. Mal lui en a pris, car souvenez-vous, le secrétaire général des Nations Unies l'a aimablement remercié et lui a dit, je crois, madame le procureur, que votre tâche est lourde, vous avez en charge les deux bureaux. Le bureau du procureur du TPY, le bureau du procureur du TPIR. C'est 12 000 kilomètres, c'est fatigant. Allez, plusieurs tours. Écoutez, on va vous décharger du TPIR. Et c'est comme ça qu'a été nommé Boubacar Diallo, gambien. Alors la question se pose, à l'évidence, ça entre ou ça entre pas dans le mandat du TPIR. Alors la réponse de Boubacar Diallo est beaucoup plus nuancée que celle de Mme Louise Arbour et celle de Mme Carla Del Ponte. Il dit, on y pense. Alors, je vous rappelle que l'on est dans le cadre de la stratégie d'achèvement. C'est-à-dire que tous les dossiers première instance devront être bouclés pour le 31 décembre 2008. 2008, c'est demain au rythme du TPIR. Un procès important, c'est 4 ans pour les plus rapides. 5 ans pour les moins rapides. On est en 2006. On y pense, ça veut dire on enterre. Parce qu'il y aura peut-être une enquête, hein, mais qui ne débouchera pas. Voilà la situation très ambiguë.
Oui, je voudrais vous... Je n'ai pas très bien compris votre question. Quel type de... Supposons qu'on mène l'enquête sur l'attentat contre l'avion d'Abiyar Emana et qu'on aboutisse à une réponse sûre, ce qui est peu probable. Je ne vois pas en quoi ça pourrait laver l'honneur de la France. Alors... Pardon ? Non, mais j'aimerais bien une réponse, parce que je crois que c'est une question fondamentale et je ne pense pas que les réponses qui ont été données à la tribune abordent cette question-là qui je pense est fondamentale, à savoir y a-t-il eu ou pas un génocide et de quoi on parle.
Excuse-moi, c'est pas seulement y a-t-il eu ou pas un génocide, c'est y a-t-il eu ou pas un génocide et la France est-elle ou pas complice pour qu'il y ait
la France est-elle
oui,
pas
complice. Je pense que il serait quand même extrêmement intéressant de savoir quelle est la responsabilité dans cet attentat, car comme vous devez le savoir, il y a des gens qui affirment que c'est Paul Baril qui a descendu l'avion. Il y a des gens qui affirment que c'est l'FPR qui a descendu l'avion. Moi je ne sais pas, et je suis dans cette affaire depuis 1993, hein, depuis avant le génocide, je ne sais pas qui a descendu l'avion. Peut-être que ce que disait monsieur était un tout petit peu ironique. Bon, dans cette affaire-là, quelque chose, j'en suis convaincue, madame, nous échappe. Quelque chose nous échappe. J'apprendrai demain que c'est M. Kagame et M. Baril qui ont descendu l'avion ensemble. Si on m'apportait sur la table la preuve absolument incontournable, je dirais « Ah bon ?» Tellement. Non, mais nous ne savons pas. Or, il y a une autre raison pour moi absolument indispensable de vider cette question, c'est qu'elle prend beaucoup trop de place dans le dossier, et cela est extrêmement nuisible aux Rwandais, parce que que ce soit le FPR qui est descendu l'avion ne change pas le fait qu'il y ait un génocide, que c'est une question qui entretient et c'est grave les conflits entre groupes identitaires rwandais. Et il faudra bien un jour que ce pauvre pays puisse se réparer. Et je pense, je voudrais ajouter une petite chose, je suis un peu longue là, mais tous les Rwandais sont des victimes de ce génocide. Et si la responsabilité que porte mon pays dans ce qui s'est passé, eh bien c'est du mal qui a été fait aussi bien qu'au Tutsi. Au toi aussi bien que tout. Tous les Rwandais sont des victimes de cela. Et en soutenant des extrémistes représentant un groupe identitaire à commettre le crime des crimes, eh bien, notre pays a aussi porté tort à ce groupe identitaire. Alors, on n'a rien à fiche des quelques personnes qui ont été les grands organisateurs de cela, bien entendu. Mais il y a 8 millions de Rwandais. Je pense, moi, j'ai mal aux 8 millions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Oui. Bon, non, je voulais simplement dire qu'effectivement, cette affaire de l'avion, ça taraude un peu tous les esprits. Mais bon, fondamentalement, bien sûr, si on apprend que c'est la France, eh ben oui, là on le saura, voilà. Si c'est le FPR, ben c'est le FPR. Ceci dit, c'est pas la chute de l'avion qui a déclenché le génocide. L'avion, bon oui, ça a pris de l'ampleur à ce moment-là, mais le génocide était en route. Il y a déjà des gens qui avaient été tués, déjà qui bien avant, de quelques semaines avant, etc. Donc ça ne changera pas fondamentalement le problème du génocide. Le génocide, par définition, c'est un crime d'État qui est planifié. Or, c'est pas l'assassinat d'un président de la République qui peut légitimer le déclenchement d'un génocide. Il y a des tas de pays qui ont perdu des présidents de la République dans des conditions dramatiques, et il s'en est pas forcément suivi un génocide. Donc, mais c'est vrai que c'est une question qu'on aimerait bien voir balayée, parce qu'il ne faut pas, comme dit Sharon, que ça prenne toute la place. Hein, parce que ce qui est premier, ce qui est grave, ce qui est important, c'est le génocide. Alors après, l'avion, bon, ben oui, attendons, il y en a qui ont des convictions, il y en a... Bon. Mais nous, on doit se battre pour les victimes de ce génocide.
Et même sur les responsabilités françaises, sur les complicités françaises, en fait, ça en rajouterait si c'est effectivement Baril. Mais de toute manière, en termes de formation des militaires, en termes de fournisseurs d'armes, de complicité financière, etc., c'est un point supplémentaire, mais ce n'est qu'un point supplémentaire sur les responsabilités françaises. Ce sera un gros point, ouais. Un gros point.
Est-ce qu'il y a une enquête de fait une enquête de fait au sujet des relations qu'avait le fils de Mitterrand, je crois que c'est Jean-Christophe Mitterrand, avec le fils de Habyarimana?
Ça, je veux répondre là, cette fois-ci, je le fais publiquement. Hein. C'est terrible, et ça me ramène à quelques petites choses que je vous disais au début de... Un jour, il y a des choses qui vont sortir. Je suis allée à toutes les auditions de la publique, hein, parce que les plus intéressantes étaient bien entendu à huis clos, mais à toutes les auditions de la mission parlementaire publique. Et j'ai vu... le fils de l'ancien président de la République mentir. Je sais que tout le monde savait qu'il mentait. Moi, personnellement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, je pourrais témoigner qu'il se connaissait parfaitement, parce que moi, madame, j'allais danser dans la même boîte de nuit que les deux fils. Je ne peux pas dire quelle est cette personne, parce que cette personne me l'a dit sous le sceau du secret absolu, que cette personne risquerait quelque chose et que il dirait, mais de toute façon, celle-là, d'ailleurs, Payon l'a bien dit, elle raconte n'importe quoi, c'est encore... voilà. Mais je le dis devant vous parce que vous pouvez croire ou ne pas me croire, mais c'est vrai ce que je vous raconte, et cette personne qui m'a dit cela, ce n'est pas la seule qui sait parfaitement ce qu'il en est. Or, ce n'est pas le plus important de savoir si ce que magouillaient les deux fils du président Mitterrand et du président Habyarimana ensemble, ce n'est pas le plus important de ce dossier, mais c'est quand même pas rien, et que le fils du président de la République mente devant une mission d'information et la preuve qu'il fallait absolument une commission d'enquête parce que là, on aurait pu... ça, les juristes vous diront exactement pourquoi ça aurait été beaucoup plus important. Et ce qui est terrible, c'est que tout le monde le savait et qu'il n'y ait pas eu un certain nombre de personnalités françaises ou quelques députés pour se lever et dire « Écoutez, je m'en vais, je claque la porte, je ne peux plus supporter ça. »
Je vais encore poser une petite question. Hein. J'avoue que nous, dans le milieu africain, nous demeurons toujours, enfin du moins certains milieux de certains Africains militants, nous demeurons toujours étonnés, surpris, que lorsqu'on brûle une paillote en Corse, on forme deux commissions d'enquête parlementaire, et lorsqu'il y a un génocide au Rwanda, on se contente d'une mission d'information. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai beau réfléchir, mais j'avoue que je n'arrive pas tellement à trouver quelque chose auquel m'accrocher.
Je crois que les choses sont pourtant claires.
Vous avez parlé tout à l'heure de relations économiques enfin, entre Mitterrand et Habyarimana. Alors, je ne sais pas, là, vous en avez dit trop ou pas assez. Est-ce que vous pouvez préciser?
Ça n'est pas un secret. Le Rwanda, en dehors de l'agriculture et de l'élevage, n'est pas un pays d'une richesse économique considérable. C'est pas une critique, c'est un constat. Or, vous le savez peut-être, le Rwanda est le premier pays exportateur de coltan. Je dis exportateur, je ne dis pas producteur. Or, le sous-sol du Rwanda ne renferme aucun gramme de coltan. En revanche, son grand voisin, celui qui se trouve de l'autre côté du lac Kivu, possède le coltan dans de très grandes proportions. Alors, le coltan est un minerai qui entre dans la composition de votre téléphone mobile et du mien. C'est important, mais peut-être pas essentiel. En revanche, c'est un composant de toute la couverture satellitaire, militaire et civile. Essentiellement militaire. Par conséquent, l'intérêt économique, au-delà de l'amitié qui probablement liait les deux hommes, on prête un Falcon 50 appartenant au ministère à l'époque de la coopération qui n'était pas lié à celui des affaires étrangères, l'équipage est français. C'est une belle amitié, mais il y a autre chose. Ce qui, par ailleurs, vous explique aujourd'hui que l'Ouganda, le Rwanda, poursuivent les Interahamwe qui ont trouvé refuge en République démocratique du Congo. Cela vous explique aussi la raison pour laquelle les choses se sont déroulées, et je cultive la litote, de la manière que vous savez, en Ituri. Parce que c'est le sous-sol de l'Ituri qui
possède le coltan. Alors, vous m'avez posé une question précise, je vous ai répondu de manière précise. J'ajouterai simplement un point et je te donnerai naturellement le micro, cher président. Petite association, mais grand président. Le premier accusé, Thomas Lubanga, a été interpellé en Ituri, en République démocratique du Congo, et transféré une fois de plus, la France intervient dans un C-130, de l'armée de l'air française, entre la République démocratique du Congo et les Pays-Bas, Amsterdam, et c'est le premier accusé déféré devant la Cour pénale internationale, sous la prévention de crimes de guerre, c'est-à-dire d'avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans.
Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris. Alors, je vais peut-être m'opposer à Maître Patrie, une fois n'est pas coutume.
C'est rare.
Je crois qu'il ne faut pas réduire l'incursion du Rwanda au Congo uniquement à des raisons économiques. Oui, mais si l'armée rwandaise actuelle a poursuivi, alors je n'ai pas compris, mais si l'armée actuelle a poursuivi les Interahamwe et les anciens phares au Congo, c'est parce que pendant des années, et encore aujourd'hui parfois, c'était des menaces considérables pour la sécurité du Rwanda. Il faut bien savoir que très régulièrement, les troupes, les anciens phares et les Interahamwe massés à la frontière rwandaise et du Congo, du côté de Goma et du Kivu, tout ça dans les montagnes, eh bien, c'était une menace perpétuelle pour le Rwanda et en particulier pour les survivants du génocide. Combien de rescapés ont été tués par des Interahamwe ou des anciens soldats de l'armée rwandaise qui sont revenus. Alors maintenant que l'armée rwandaise, profitant de cette incursion, mais on sait que l'armée rwandaise est allée très loin dans le Congo, profitant de ces incursions, en a ramené du minerai. Moi personnellement, je n'ai jamais vu, mais je ne prétends pas que ce n'est pas vrai. Mais je crois quand même que il était indispensable pour le Rwanda d'assurer la sécurité à ses frontières. Quel pays accepterait que des anciens génocidaires puissent se tenir en permanence massés à la frontière, menaçant ainsi la sécurité du pays? Je crois que ce serait... c'était inacceptable.
Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Il s'agissait bien sûr de préserver les frontières du Rwanda. En revanche, le Rwanda est devenu, à la suite du génocide, pardonnez-moi, le Rwanda a exporté 4 fois plus de coltan. Je crois qu'il faut avoir un regard empreint d'objectivité, c'est-à-dire analyser les choses telles qu'elles sont. Pardonnez-moi juste, madame, je termine. Oui, bien sûr, il y a la protection des frontières. Oui, bien sûr, il y a des Interahamwe. Oui, bien sûr, il y a des membres des forces armées rwandaises. Il y a aussi le coltan.
Oui, mais n'oublions pas que du temps d'Abiyarimana, les trafics de coltan n'étaient pas encore tellement à l'ordre du jour, d'une part. D'autre part, on sait très bien ce qui se passe avec le coltan, qui est d'ailleurs dans le Nord Kivu. Il y a plus d'or dans l'Ituri et un peu plus de coltan dans le Nord Kivu. C'est bien sûr, ces trafics de coltan, c'est extrêmement documenté, etc. Mais je pense pas que la France, notre pays, a de très grands intérêts dans l'Afrique centrale. Nous ne savons pas encore. Oui, le bois, le pétrole, etc. Tout ça, ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, n'est-ce pas? Ça va quand même de Kampala jusqu'à Brazzaville, soyons clairs. Nous avons une situation où au fond, on ne sait pas toutes les raisons pour lesquelles la France a soutenu avec autant de hargne et de persévérance le régime d'Habyarimana. Il y a encore des choses qui nous échappent, mais tout de même. Il y a un petit aspect qui me paraît important, c'est que, je ne suis pas en train de dire quel est l'homme, c'est un constat. Un Paul Kagame et avant lui Frédéric Guémard ne sont pas le genre de personnages à aller demander l'autorisation d'une capitale européenne pour prendre une décision. Et je crois que cela n'a pas tellement plu dans un certain nombre de capitales européennes. Et que, bon, c'est une façon peut-être un peu ironique de s'exprimer, mais c'est une raison, ça simplifie beaucoup, mais il y a de cela.
On a encore la possibilité d'une autre question. Non, pas d'autres questions dans la salle. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez ajouter?
Est-ce que les intervenants souhaitaient ajouter d'autres choses? S'il n'y a pas de questions dans la salle. Ah, une petite.
Je suis toujours bref. Non, c'est un peu en dehors du Rwanda, mais bon, comme je suis togolais, ça m'intéresse, cela m'intéresse. On a vu que dans le cas de Rafik Hariri au Liban, il y a beaucoup d'agitation, on demande une commission d'enquête, et l'ONU a fait un rapport sur le Togo, où effectivement, après l'élection présidentielle, qui a vu donc installer le fils de l'ancien dictateur, il y a eu aussi beaucoup de morts, il y a eu donc des tueries. Alors, dans un cas, effectivement, on s'agite, on veut absolument qu'il y ait une commission d'enquête pour le Liban, et dans le cas du Togo, présentement, on ne dit absolument rien. Alors, on se demande ce qui se passe pour que, bon, c'est vrai, monsieur Hariri était premier ministre, et ce qu'on a tué au Togo, c'est quand même les hommes de la base, des citoyens ordinaires, et dans quel cas demande-t-on une commission d'enquête, et dans quel cas laisse-t-on les rapports sans suite? Et ça, c'est quand même... une question qui nous taraude un peu, et il serait intéressant qu'on ait quand même quelques éclaircissements si possible. Bon, merci. Je sais que ce n'est pas le Rwanda, hein, mais ça concerne toujours les Nations Unies.
Je ne suis pas dans le secret des dieux, en particulier en ce qui concerne le Togo, mais ce que je peux dire sur le Liban et la commission d'enquête sur l'assassinat de M. Hariri, c'est que deux membres permanents du Conseil de sécurité, au moins, attachaient une grosse importance à contrer l'influence syrienne à propos de cet attentat et de bien d'autres événements, c'est les États-Unis et la France. Une résolution du Conseil de sécurité, antérieure à celle qui a créé la commission d'enquête, avait contesté la prolongation du mandat du président Laoud. Et c'est sur ce thème que se sont réconciliés la France et les États-Unis, un peu brouillés depuis l'Irak. Au Togo, manifestement, ces compromissions n'ont pas joué. Je pense que la France n'est pas intéressée à ce qu'il y ait une commission d'enquête sur les événements du Togo, et l'Amérique non plus. Donc il n'y aura pas de commission d'enquête. C'est un peu bibliquement simple, mais...
On voit rarement une nation reconnaître ses crimes et ses délits.
On voit rarement un homme ou une femme reconnaître ses crimes et ses délits. Aussi.
Bon, je propose de conclure. De conclure la soirée pour ce soir, en tout cas. Il est évident que les soirées, les rencontres continueront. Vous avez des documents au fond de la salle, notamment pour la période des commémorations qu'Ibuka va organiser à partir de la semaine prochaine sur Paris. D'autres rencontres auront lieu avec des militants de survie sur Argenteuil, sur Nanterre, Si vous êtes intéressé, adressez-vous au capitaine de l'association au fond. Et Alain vous a parlé du document de l'association CPCR au fond. Vous êtes invité pour ceux qui s'y intéressent, comme vous êtes invité d'ailleurs à prendre les documents de survie sur la table pour ceux qui souhaitent rejoindre ce combat. Merci, à bientôt. Thank you.